Spinoza, traité politique, dans lequel il est démontré comment une société où existe le régime monarchique et aussi une société où les meilleurs ont le pouvoir doivent être instituées pour ne pas être précipitées dans la tyrannie et pour que la paix et la liberté des citoyens demeurent inviolées. Traduit par Charles Appu. Chapitre 1er. Paragraphe 1. Les philosophes conçoivent les affections qui se livrent bataille en nous comme des vices dans lesquels les hommes tombent par leur faute. C'est pourquoi ils ont accoutumé de les tourner en dérision, de les déplorer, de les réprimander, ou, quand ils veulent paraître plus moraux, de les détester. Croit ainsi agir divinement et s'élever au fait de la sagesse, prodiguant toutes sortes de louanges à une nature humaine qui n'existe nulle part et flétrissant par leur discours celle qui existe réellement. Ils conçoivent les hommes, en effet, non tels qu'ils sont, mais tels qu'eux-mêmes voudraient qu'ils fussent. De là cette conséquence que la plupart, au lieu d'une éthique, ont écrit une satire et n'ont jamais eu en politique de vues qui puissent être mises en pratique. La politique telle qu'ils la conçoivent, devant être tenue pour une chimère ou comme convenant soit au pays d'utopie, soit à l'âge d'or, c'est-à-dire à un temps où nulle institution n'était nécessaire. Entre toutes les sciences, donc, qui ont une application, c'est la politique où la théorie passe pour différer le plus de la pratique. Et il n'est pas d'homme qu'on juge moins propre à gouverner l'État que les théoriciens, c'est-à-dire les philosophes. Paragraphe 2. Pour les politiques, en revanche, on les croit plus occupés à tendre aux hommes des pièges qu'à les diriger pour le mieux, et on les juge habiles plutôt que sages. L'expérience, en effet, leur a enseigné qu'il y aura des vices aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Ils s'appliquent donc à prévenir la malice humaine, et cela par des moyens dont une longue expérience a fait connaître l'efficacité, et que des hommes, mus par la crainte, plutôt que guidés par la raison, ont coutume d'appliquer. Agissant en cela d'une façon qui paraît contraire à la religion, surtout aux théologiens. Selon ces derniers, en effet, le souverain devrait conduire les affaires publiques conformément aux règles morales que le particulier est tenu d'observer. Il n'est pas douteux, cependant, que les politiques ne traitent dans leurs écrits de la politique avec beaucoup plus de bonheur que les philosophes. Ayant eu l'expérience pour maîtresse, ils n'ont rien enseigné en effet qui fût inapplicable. Paragraphe 3. Et certes, je suis pleinement persuadée que l'expérience a montré tous les genres de cités qui peuvent se concevoir et où les hommes vivent en paix, en même temps qu'elle a fait connaître les moyens par lesquels il faut diriger la multitude, c'est-à-dire la contenir dans certaines limites. De sorte que je ne crois pas qu'il soit possible de déterminer par la pensée un régime qui n'ait pas encore été éprouvé et qui cependant puisse, mis à l'essai ou en pratique, ne pas échouer. Les hommes, en effet, sont faits de telle sorte qu'ils ne puissent vivre sans une loi commune. Or, les règles communes et les affaires publiques ont été l'objet de l'étude d'hommes d'esprit très pénétrants, habiles ou rusés, qui ont établi des institutions et en ont traité. Il n'est donc pas croyable que nous concevions jamais un procédé quelconque de gouvernement qui puisse être d'usage dans une société et dont aucun modèle ne se soit encore rencontré et que des hommes, s'occupant des affaires communes et veillant à leur propre sécurité, n'aient pas aperçu. Paragraphe 4. M'appliquant à la politique, donc, je n'ai pas voulu approuver quoi que ce fût de nouveau ou d'inconnu, mais seulement établir, par des raisons certaines et indubitables, ce qui s'accorde le mieux avec la pratique. En d'autres termes, le déduire de l'étude de la nature humaine. Et pour apporter dans cette étude la même liberté d'esprit qu'on a coutume d'apporter dans les recherches mathématiques, j'ai mis tous mes soins à ne pas tourner en dérision les actions des hommes, à ne pas pleurer sur elles, à ne pas les détester, mais à en acquérir une connaissance vraie. J'ai aussi considéré les affections humaines, telles que l'amour, la haine, la colère, l'envie, la superbe, la pitié, et les autres mouvements de l'âme, non comme des vices, mais comme des propriétés de la nature humaine, des manières d'être qui lui appartiennent, comme le chaud et le froid, la tempête, le tonnerre et tous les météores appartiennent à la nature de l'air. Quel que soit le désagrément que puissent avoir pour nous ces intempéries, elles sont nécessaires, ayant des causes déterminées par lesquelles nous nous appliquons à en connaître la nature. Et quand l'âme a la connaissance vraie de ces choses, elle en jouit tout de même que de la connaissance des choses qui donnent à nos sens de l'agrément. Paragraphe 5. C'est une chose certaine, en effet, et dans notre éthique nous l'avons démontré, les hommes sont nécessairement soumis à des affections, sont faits de telle sorte qu'ils éprouvent de la pitié pour ceux qui ont du malheur, de l'envie pour ceux qui ont du bonheur, qu'ils sont plus portés à la vengeance qu'à la pitié. De plus, chacun désire que les autres vivent conformément à sa propre complexion, approuve ce que lui-même approuve et rejette ce que lui-même rejette. D'où résulte, tous voulant pareillement être les premiers, que des conflits éclatent entre eux, qu'ils s'efforcent de s'écraser les uns les autres et que le vainqueur se glorifie plus d'avoir triomphé de son rival que de s'être procuré à lui-même quelque bien. Et sans doute, tous se sont persuadés que, suivant les enseignements de la religion, au contraire, chacun doit aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire défendre comme le sien propre le droit d'autrui. Mais nous avons montré que cette persuasion a peu de pouvoir sur les affections. Elle triomphe à la vérité quand on est à l'article de la mort, c'est-à-dire quand la maladie a vaincu les passions et que l'homme gît, inerte, ou encore dans les temples où les hommes n'ont pas à défendre leurs intérêts. Mais elle est sans efficacité devant les tribunaux ou à la cour, où il serait le plus nécessaire qu'elle en eût. Nous avons montré en outre que la raison peut bien contenir et gouverner les affections, mais nous avons vu en même temps que la voie qu'enseigne la raison est très difficile. Ceux qui, par suite, se persuadent qu'il est possible d'amener la multitude ou les hommes occupés des affaires publiques à vivre selon les préceptes de la raison rêvent de l'âge d'or des poètes, c'est-à-dire se complaisent dans la fiction. Paragraphe 6. Un État dont le statut dépend de la loyauté de quelques personnes et dont les affaires, pour être bien dirigées, exigent que ceux qui les mènent veuillent agir loyalement, n'aura aucune stabilité. Pour qu'il puisse subsister, il faudra ordonner les choses de telle sorte que ceux qui administrent l'État, qu'ils soient guidés par la raison ou mus par une affection, ne puissent être amenés à agir d'une façon déloyale ou contraire à l'intérêt général. Et peu importe à la sécurité de l'État quels motifs intérieurs ont les hommes de bien administrer les affaires, pourvu qu'en fait, il les administre bien. La liberté de l'âme, en effet, c'est-à-dire le courage, est une vertu privée. La vertu nécessaire à l'État est la sécurité. Paragraphe 7. Puisqu'enfin, tous les hommes barbares ou cultivés établissent partout des coutumes et se donnent un statut civil, ce n'est pas des enseignements de la raison mais de la nature commune des hommes, c'est-à-dire de leurs conditions, qu'il faut déduire les causes et les fondements naturels des pouvoirs publics. Ainsi que je veux le faire dans le chapitre suivant. Chapitre 2. Paragraphe 1. Nous avons traité, dans notre traité théologico-politique, du droit naturel et du droit civil. Et dans notre éthique, nous avons expliqué ce qu'est le péché, le mérite, la justice, l'injustice, et enfin la liberté humaine. Pour ne pas obliger toutefois les lecteurs du présent traité à chercher dans d'autres ouvrages les principes qui sont les plus nécessaires dans celui-ci, j'ai résolu de donner à nouveau ces explications et d'y joindre une démonstration en forme. Paragraphe 2. Toute chose naturelle peut être conçue adéquatement, qu'elle existe ou n'existe pas. Toutefois, le principe en vertu duquel les choses naturelles existent et persévèrent dans leur existence ne peut se conclure de leur définition, car leur essence idéale reste après qu'elles ont commencé d'exister, la même qu'avant qu'elles existassent. Puis donc, que le principe par lequel elles existent ne peut suivre de leur essence, le maintien de leur existence n'en découle pas non plus. Elles ont besoin, pour continuer d'être, de la même puissance qui était nécessaire pour qu'elles commençassent d'exister. De là, cette conséquence que la puissance par laquelle les choses de la nature existent et aussi agissent ne peut être aucune autre que la puissance éternelle de Dieu. Si quelque autre puissance avait été créée, en effet, elle ne pourrait pas se conserver elle-même et par suite, elle ne pourrait pas non plus conserver les choses naturelles. Mais elle-même aurait besoin, pour persévérer dans l'existence, de la même puissance qui était nécessaire pour qu'elle fût créée. Paragraphe 3. Sachant donc que la puissance par laquelle existent et agissent les êtres de la nature est la puissance même de Dieu, nous connaissons facilement ce qu'est le droit de nature. Puisqu'en effet, Dieu a droit sur toute chose, et que le droit de Dieu n'est rien d'autre que la puissance même de Dieu, en tant qu'elle est considérée dans sa liberté absolue. Tout être dans la nature tient de la nature autant de droits qu'il a de puissance pour exister et agir. La puissance par laquelle existe et agit un être quelconque de la nature n'est autre chose en effet que la puissance même de Dieu, dont la liberté est absolue. Paragraphe 4. Par droit de nature, donc, j'entends les lois mêmes ou règles de la nature suivant lesquelles tout arrive, c'est-à-dire la puissance même de la nature, par suite, le droit naturel de la nature entière, et conséquemment de chaque individu, s'étend jusqu'où va sa puissance. Et donc, tout ce que fait un homme suivant les lois de sa propre nature, il le fait en vertu d'un droit de nature souverain, et il a sur la nature autant de droits qu'il a de puissance. Paragraphe 5. Si donc la nature humaine était disposée de telle sorte que les hommes vécussent suivant les seules prescriptions de la raison, et si tout leur effort tendait à cela seulement, le droit de nature, aussi longtemps que l'on considérerait ce qui est propre au genre humain, serait déterminé par la seule puissance de la raison. Mais les hommes sont conduits plutôt par le désir aveugle que par la raison. Et par suite, la puissance naturelle des hommes, c'est-à-dire leur droit naturel, doit être définie non par la raison, mais par tout appétit qui les détermine à agir et par lequel ils s'efforcent de se conserver. Je l'avoue à la vérité, ces désirs, qui ne tirent pas leur origine de la raison, sont non pas tant des actions que des passions humaines. Mais comme il s'agit ici de la puissance universelle de la nature, qui est la même chose que le droit de nature, nous ne pouvons reconnaître en ce moment aucune différence entre les désirs que la raison engendre en nous et ceux qui ont une autre origine. Les uns et les autres, en effet, sont des effets de la nature et manifestent la force naturelle par où l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Qu'il soit sage ou insensé, l'homme est toujours une partie de la nature, et tout ce par quoi il est déterminé à agir doit être rapporté à la puissance de la nature, en tant qu'elle peut être définie par la nature de tel ou tel homme. Qu'il soit conduit par la raison ou par le seul désir, l'homme, en effet, ne fait rien qui ne soit conforme aux lois et aux règles de la nature, c'est-à-dire, par le paragraphe 4 de ce chapitre, en vertu du droit de nature. Paragraphe 6. La plupart, cependant, croient que les insensés troublent l'ordre de la nature plutôt qu'ils ne le suivent. Et la plupart aussi conçoivent les hommes dans la nature comme un empire dans un empire. Ils jugent en effet que l'âme humaine, loin d'être produite par des causes naturelles, est immédiatement créée par Dieu et indépendante du reste du monde, à ce point qu'elle a un pouvoir absolu de se déterminer elle-même et d'user droitement de la raison. Mais l'expérience enseigne plus que suffisamment qu'il n'est pas plus en notre pouvoir d'avoir une âme saine qu'un corps sain. Comme en outre, toute chose, autant qu'il est en elle-même, s'efforce de conserver son être, nous ne pouvons douter en aucune manière que s'il était en notre pouvoir aussi bien de vivre suivant les prescriptions de la raison que d'être conduit par le désir aveugle, tous vivraient sous la conduite de la raison et suivant des règles sagement instituées. Or, cela n'est pas le moins du monde, chacun au contraire obéit à l'attrait du plaisir qu'il recherche. Il n'est pas vrai que cette difficulté soit levée par les théologiens quand ils déclarent que la cause de cette impuissance de la nature humaine est le vice ou le péché qui tire son origine de la chute du premier homme. Si en effet le premier homme avait eu le pouvoir de rester droit aussi bien que de tomber, s'il était en possession de lui-même et d'une nature non encore viciée, comment a-t-il pu se faire qu'ayant savoir et prudence, il soit tombé? Dira-t-on qu'il a été trompé par le diable? Mais qui donc a trompé le diable lui-même? Qui, demandai-je, a pu faire que l'être l'emportant sur toutes les autres créatures par la connaissance, ait été assez fou pour vouloir être plus grand que Dieu? Cet être, qui avait une âme saine, ne s'efforçait donc pas de conserver son être autant qu'il était en lui? Comment a-t-il pu arriver en outre que le premier homme, en possession de lui-même et maître de sa volonté, se soit laissé séduire et tromper. Si en effet il avait le pouvoir d'user droitement de la raison, il n'a pas pu être trompé, car autant qu'il était en lui, il s'est nécessairement efforcé de conserver son être et son âme saine. Alors, on suppose qu'il avait ce pouvoir. Il a donc nécessairement conservé son âme en santé et n'a pu être trompé. Mais son histoire montre que cela n'est pas. Il faut donc reconnaître qu'il n'était pas au pouvoir du premier homme d'user droitement de la raison, mais qu'il a été, comme nous le sommes, soumis aux passions. Paragraphe 7. Personne ne peut nier que l'homme, comme les autres individus, s'efforce à conserver son être. Si l'on pouvait concevoir quelques différences, elles devraient provenir de ce que l'homme aurait une volonté libre. Mais plus l'homme est conçu par nous comme libre, plus nous sommes obligés de juger qu'il doit nécessairement conserver son être et se posséder lui-même. Quiconque ne confond pas la liberté avec la contingence m'accordera cela sans difficulté. La liberté, en effet, est une vertu, c'est-à-dire une perfection. Rien, en conséquence, de ce qui atteste dans l'homme de l'impuissance, ne peut se rapporter à sa liberté. L'homme, par suite, ne peut en aucune façon être qualifié de libre parce qu'il peut ne pas exister ou parce qu'il peut ne pas user de la raison. Il ne peut l'être que dans la mesure où il a le pouvoir d'exister et d'agir suivant les lois de la nature humaine. Plus donc nous considérons qu'un homme est libre, moins nous pouvons dire qu'il ne peut pas user de la raison et préférer le mal au bien. Et ainsi, Dieu, qui est un être absolument libre, connaît et agit nécessairement, c'est-à-dire qu'il existe, connaît et agit par une nécessité de sa nature. Il n'est pas douteux, en effet, que Dieu n'agisse avec la même nécessité qu'il existe, de même qu'il existe en vertu d'une nécessité de sa propre nature. Il agit aussi en vertu d'une nécessité de sa propre nature, c'est-à-dire avec une absolue liberté. Paragraphe 8. Nous concluons donc qu'il n'est pas au pouvoir de chaque homme d'user toujours de la raison et de se maintenir au fait de la liberté humaine. Et cependant, chacun, toujours, s'efforce de conserver son être autant qu'il est en lui. Et, puisque le droit de chacun a pour mesure sa puissance, tout ce à quoi il s'efforce et tout ce qu'il fait, qu'il soit sage ou insensé, il le fait par un droit souverain de nature. D'où suit que le droit et la règle de nature, sous lesquels naissent tous les hommes et sous lesquels ils vivent la plupart du temps, n'interdisent rien, sinon ce que nul n'a le désir ou le pouvoir de faire. Ils ne sont contraires ni aux luttes, ni aux haines, ni à la colère, ni à la tromperie, ni à rien absolument de ce que l'appétit conseille. Rien de surprenant à cela, car la nature n'est point soumise aux lois de la raison humaine qui tendent uniquement à l'utilité véritable et à la conservation des hommes. Elle en comprend une infinité d'autres qui concernent l'ordre éternel, la nature entière, dont l'homme est une petite partie. Et c'est par la seule nécessité de cet ordre que tous les individus sont déterminés d'une certaine manière à exister et à agir. Tout ce donc qui, dans la nature, nous paraît ridicule, absurde ou mauvais, n'a cette apparence que parce que nous connaissons les choses en partie seulement et ignorons, pour pour la plus grande partie, l'ordre de la nature entière et les liaisons qui sont entre les choses, de sorte que nous voulons que tout soit dirigé d'une façon conforme à notre raison, et cependant, ce que la raison affirme être mauvais ne l'est point, si l'on considère l'ordre et les lois de l'univers, mais seulement si l'on a égard aux seules lois de notre nature. Paragraphe 9. Il suit encore de ce qui précède, que chacun est dans la dépendance d'un autre aussi longtemps qu'il est soumis au pouvoir de cet autre, et qu'il relève de lui-même dans la mesure où il peut repousser toute violence, punir comme il le juge bon le dommage qui lui est causé, et d'une manière générale, vivre selon sa propre complexion. Paragraphe 10. Celui-là tient un autre en son pouvoir qui le tient enchaîné, ou à qui il a pris toutes ses armes, tout moyen de se défendre et d'échapper, ou à qui il a su inspirer de la crainte, ou qu'il s'est attaché par des bienfaits, de telle sorte que cet autre veuille lui complaire plus qu'à soi-même, et vivre selon le désir de son maître plutôt que suivant son propre désir. Mais le premier et le deuxième moyen de tenir un homme en son pouvoir ne concerne que le corps et non l'âme, tandis que par le troisième moyen ou le quatrième, on s'empare et du corps et de l'âme, mais on ne les tient qu'aussi longtemps que durent la crainte et l'espérance. Si ces sentiments viennent à disparaître, celui dont on était le maître redevient son propre maître. Paragraphe 11. La faculté de juger peut être soumise à la volonté d'un autre, dans la mesure où l'âme peut être trompée par cet autre. D'où suit que l'âme s'appartient à elle-même dans la mesure où elle peut user droitement de la raison. Bien plus, comme il faut mesurer la puissance de l'homme moins à la vigueur du corps qu'à la force de l'âme, ceux-là s'appartiennent à eux-mêmes au plus haut point qu'ils l'emportent par la raison et vivent le plus sous sa conduite. Et, ainsi, j'appelle libre un homme dans la mesure où il vit sous la conduite de la raison, parce que, dans cette mesure même, il est déterminé à agir par des causes pouvant être connues adéquatement par sa seule nature, encore que ces causes le déterminent nécessairement à agir. La liberté, en effet, comme nous l'avons montré dans le paragraphe 7 de ce chapitre, ne supprime pas, mais pose au contraire la nécessité de l'action. Paragraphe 12. L'engagement pris en parole envers quelqu'un de faire ou au contraire de ne pas faire telle ou telle chose, quand on a le pouvoir d'agir contrairement à la parole donnée, reste en vigueur aussi longtemps que la volonté de celui qui a promis ne change pas. Qui, en effet, a le pouvoir de rompre l'engagement qu'il a pris, ne s'est point dessaisi de son droit, mais a seulement donné des paroles. Si donc, celui qui est par droit de nature son propre juge, a jugé droitement ou faussement, il est d'un homme en effet de se tromper. Que l'engagement pris aura pour lui des conséquences plus nuisibles qu'utiles, et qu'il considère en son âme qu'il a intérêt à rompre l'engagement, il le rompra par droit de nature. Par le paragraphe 9 de ce chapitre. Paragraphe 13. Si deux personnes s'accordent entre elles et unissent leurs forces, elles auront plus de pouvoir ensemble et conséquemment un droit supérieur sur la nature que chacune des deux n'en avait à elle seule. Et plus nombreux seront les hommes qui auront mis leurs forces en commun, plus aussi ils auront de droits à eux tous. Paragraphe 14. En tant que les hommes sont en proie à la colère, à l'envie ou à quelques sentiments de haine, ils sont entraînés à l'opposé les uns des autres et contraires les uns aux autres, et d'autant plus redoutables qu'ils ont plus de pouvoir et sont plus habiles et rusés que les autres animaux. Comme maintenant, les hommes, ainsi que nous l'avons vu au paragraphe 5 de ce chapitre, sont très sujets par nature à ces sentiments, ils sont aussi par nature ennemis les uns des autres. Celui-là, en effet, est mon plus grand ennemi, qui est le plus redoutable pour moi et de qui je dois le plus me garder. Paragraphe 15. Comme, suivant le paragraphe 9 de ce chapitre, à l'état naturel, chacun est son propre maître, aussi longtemps qu'il peut se garder de façon à ne pas subir l'oppression d'un autre, et que seul on s'efforce en vain de se garder de tous, aussi longtemps que le droit naturel humain est déterminé par la puissance de chacun, ce droit sera en réalité inexistant, ou du moins n'aura qu'une existence purement théorique, puisqu'on n'a aucun moyen assuré de le conserver. Il est certain aussi que chacun a d'autant moins de pouvoir et par suite d'autant moins de droits qu'il a plus de raisons de craindre. Ajoutons que sans l'entraide, les hommes ne peuvent guère entretenir leur vie et cultiver leur âme. Nous arrivons donc à cette conclusion que le droit de nature, pour ce qui concerne proprement le genre humain, peut difficilement se concevoir, sinon quand les hommes ont des droits communs, des terres qu'ils peuvent habiter et cultiver ensemble, quand ils peuvent veiller au maintien de leur puissance, se protéger, repousser toute violence et vivre suivant une volonté commune à tous. Plus grand, en effet, suivant le paragraphe 13 de ce chapitre, sera le nombre de ceux qui se seront ainsi réunis en un corps, plus aussi ils auront en commun de droits. Et s'il est scolastique, pour cette raison que les hommes à l'état de nature ne peuvent guère être leurs propres maîtres, ont voulu appeler l'homme un animal sociable, je n'ai rien à leur objecter. Paragraphe 16. Quand les hommes ont des droits communs et que tous sont conduits comme par une seule pensée, il est certain, par le paragraphe 13 de ce chapitre, que chacun a d'autant moins de droits que tous les autres réunis l'emportent sur lui en puissance. C'est-à-dire que chacun n'a en réalité de droits sur la nature qu'autant que lui en confère la loi commune. Tout ce d'autre part qui lui est commandé par une volonté commune, il est tenu de le faire. Ou encore, par le paragraphe 4 de ce chapitre, on a le droit de l'y obliger. Paragraphe 17. Ce droit que définit la puissance du nombre, on a coutume de l'appeler pouvoir public. Et celui-là possède absolument ce pouvoir qui, par la volonté générale, a le soin de la chose publique, c'est-à-dire le soin d'établir, d'interpréter et d'abroger les lois, de défendre les villes, de décider de la guerre et de la paix, etc. Si ce soin appartient à une assemblée composée de toute la masse, le pouvoir public est appelé démocratie. Si l'assemblée se compose de quelques personnes choisies, on a l'aristocratie. Et si enfin le soin de la chose publique et conséquemment le pouvoir appartient à un seul, alors c'est ce qu'on appelle monarchie. Paragraphe 18. On voit donc clairement, par ce que nous venons de montrer dans ce chapitre, que dans l'état de nature, il n'y a point de péché. Ou bien si quelqu'un pêche, c'est envers lui-même, et non envers autrui. Personne, en effet, n'est tenu de complaire à un autre par droit de nature, à moins qu'il ne le veuille. Et aucune chose n'est bonne ou mauvaise pour lui, sinon ce qu'en vertu de sa propre complexion, il décide qui est un bien ou un mal. Et le droit de nature n'interdit absolument rien, sinon ce qui n'est au pouvoir de personne. Voir paragraphes 5 et 8 de ce chapitre. Or, le péché est une action qui, suivant le droit, ne peut être accomplie. Si les hommes étaient tenus par une loi de nature de se laisser guider par la raison, tous, nécessairement, prendraient la raison pour guide, car les lois de la nature sont, paragraphes 2 et 3 de ce chapitre, des lois établies par Dieu, avec la même liberté qui appartient à son existence, et, par suite, ces lois découlent de la nécessité de la nature divine, voir paragraphe 7 de ce chapitre, en conséquence de quoi elles sont éternelles et ne peuvent être violées. Mais les hommes suivent plutôt l'appétit que la raison, et cependant, ils ne troublent pas l'ordre de la nature, mais s'y plient nécessairement. L'insensé, donc, et le débile d'esprit ne sont pas plus tenus par le droit de nature de régler sagement leur vie que le malade d'avoir un corps sain. Paragraphe 19. Le péché, donc, ne peut se concevoir que dans un état, c'est-à-dire s'il a été décidé en vertu du droit de commander, qui appartient à la communauté, quelle chose est bonne, quelle est mauvaise, et si nulle, par le paragraphe 16 de ce chapitre, n'a le droit de faire quoi que ce soit, sinon en vertu d'un décret ou d'un consentement commun. Le péché, en effet, comme nous l'avons dit dans le paragraphe précédent, consiste à faire ce qui, d'après la loi, ne peut être fait ou est défendu par elle. Le consentement à la loi, en revanche, est une volonté constante de faire ce qui, suivant la loi, est bien et doit être fait suivant un décret commun. Paragraphe 20. Nous avons coutume, cependant, d'appeler aussi péché ce qui se fait contrairement à l'injonction de la saine raison, et obéissance, une volonté constante de régler ses appétits suivant les prescriptions de la raison. Je voudrais accepter cela si la liberté humaine consistait dans la licence donnée aux appétits et la servitude dans le gouvernement de la raison. Mais puisque la liberté humaine est d'autant plus grande que l'homme vit davantage sous la conduite de la raison, et peut mieux régler ses appétits, nous ne pouvons, sans une très grande impropriété, appeler obéissance une vie raisonnable et péché ce qui est en réalité impuissance de l'âme, mais non licence contre elle-même, et qu'il faut appeler bien plutôt esclavage que liberté. Voir paragraphes 7 et 11 de ce chapitre. Paragraphe 21. Toutefois, comme la raison enseigne à pratiquer la moralité, à vivre dans la tranquillité et la paix intérieure, ce qui n'est possible que s'il y a un pouvoir public, comme en outre il ne peut se faire que la multitude soit conduite comme par une seule pensée, ainsi qu'il est requis dans l'État, s'il n'existe pas des lois établies, conformément aux prescriptions de la raison, on n'use pas d'un langage tellement impropre en appelant péché ce qui est contraire à l'injonction de la raison, puisque les lois de l'État le mieux réglées, voire le paragraphe 18 de ce chapitre, doivent être établies conformément à la raison. Comme j'ai dit, paragraphe 18 de ce chapitre, que l'homme à l'état de nature s'il pêche, pêche contre lui-même, l'on verra au chapitre 4, paragraphes 4 et 5, en quel sens on peut dire que celui qui possède le pouvoir public et dispose d'un droit de nature peut, suivant le droit de nature, être tenu par les lois et pécher. Paragraphe 22. Pour ce qui touche à la religion, il est certain que l'homme est d'autant plus libre et d'autant plus d'accord avec lui-même qu'il aime Dieu davantage et l'honore d'une âme plus entière. Toutefois, en tant que nous avons égard non à l'ordre de la nature que nous ignorons, mais aux seules injonctions de la raison concernant la religion, et que nous considérons en même temps que ces injonctions sont en nous comme une révélation par laquelle en nous-mêmes Dieu ferait entendre sa parole, ou encore ont été révélées aux prophètes sous forme de loi, nous pouvons dire, parlant humainement, que cet homme obéit à Dieu qu'il aime d'une âme entière, et que celui-là, au contraire, pêche qui se laisse entraîner par le désir aveugle. Mais nous devons nous rappeler en même temps que nous sommes au pouvoir de Dieu comme l'argile au pouvoir du potier, qui, de la même terre, fait des vases dont les uns sont pour l'honneur, les autres pour l'opprobre, et aussi que l'homme peut bien agir contrairement à ses décrets de Dieu qui sont imprimés comme des lois dans notre âme ou dans celle des prophètes, mais non contre le décret éternel de Dieu qui est gravé dans tout l'univers et qui concerne l'ordre de toute la nature. Paragraphe 23. De même donc que le péché et l'obéissance au sens strict ne peuvent se concevoir que dans un état, de même la justice et l'injustice. Il n'y a rien en effet dans la nature que l'on puisse dire appartenir de droit à l'un et non à l'autre. Mais tout est à tous, c'est-à-dire que chacun a droit dans la mesure où il a pouvoir. Dans un état au contraire, où la loi commune décide de ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre, celui-là est appelé juste, qui a une volonté constante d'attribuer à chacun le sien, injuste au contraire, celui qui s'efforce de faire sien ce qui est à un autre. Paragraphe 24. Quant à la louange et au blâme, nous l'avons expliqué dans notre éthique. Ce sont des sentiments de joie ou de tristesse qu'accompagne comme cause l'idée de la vertu ou au contraire, de l'impuissance de l'homme.